Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Céline Malaisé, conseillère régionale PCF, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne à la région Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'aimerais qu'on parle des municipales prévues en mars 2026. La France insoumise a investi plusieurs candidats dans l'espoir de conquérir des villes gérées par la gauche. En Île-de-France, des maires socialistes ou communistes risquent d'en faire les frais. À Saint-Denis, un accord a été trouvé entre LFI et le PCF. En revanche, à Montreuil et la Courneuve, et à la Courneuve où LFI a fait d'excellents scores aux législatives, le parti de Jean-Luc Mélenchon a bien l'intention de succéder à des maires issus du Parti communiste. Le PCF est-il en danger avec cette offensive de LFI ?
Non, je ne crois pas. Le Parti communiste n'est pas en danger. Ces maires sortants sont des maires qui répondent aux besoins de leurs habitants. Et donc, ils vont défendre leur bilan et qui vont proposer à leurs habitants des projets pour la prochaine mandature. Après, je crois qu'il faut pas se tromper de combat dans ces élections municipales. La Seine-Saint-Denis n'est pas le terrain de jeu pour voir qui pèse le plus au sein de la gauche, parce que la Seine-Saint-Denis, contrairement aux apparences, n'est pas qu'un bastion de gauche. Il y a une implantation notamment de l'UDI depuis un certain nombre d'années maintenant. Et pour preuve, puisque la source était Drancy, à Drancy, le Parti communiste et la France insoumise se sont mises d'accord. Les deux forces se sont mises d'accord pour battre la droite et faire en sorte que, enfin, cette municipalité soit au service de ses habitants. Donc, j'ai entendu les quelques sorties isolées de responsables de Seine-Saint-Denis, mais je crois que l'enjeu des municipales doit être rappelé partout où cela est possible. Il faut battre la droite, il faut contenir la progression de l'extrême droite, parce que ce qui va se passer aux élections municipales, c'est le danger, il vient de ce côté de l'échiquier politique. Voilà, et ça n'est pas à se compter forcément ce qui est important. Et puis j'ai également entendu Manuel Bompard qui met un peu d'eau aussi dans certaines déclarations qui étaient ou de sorties isolées, qui explique que, évidemment, si la FI sort en tête au premier tour, ce sera la règle de la proportionnelle dans le cadre d'une fusion pour le second tour, donc d'une liste de rassemblement de toute la gauche. Et puis, si c'est une autre force politique qui est en tête, et notamment le Parti communiste le fait de manière systématique, il propose la fusion et le rassemblement aux autres forces politiques qui se sont présentées ailleurs au premier tour. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur ça, parce que je crois qu'on perd de vue l'enjeu principal, qui va être de faire reculer les idées de droite et d'extrême droite qui ont de plus en plus tendance à se ressembler.
À Marseille, Martine Vassal, candidate LR soutenue par Renaissance, a laissé planer le doute sur une alliance avec le RN après le premier tour. Puis elle est revenue sur ses déclarations. Est-ce qu'aujourd'hui, le RN s'est normalisé au point qu'il peut passer des alliances avec la droite républicaine au niveau local ?
Je crois en fait que la banalisation du Rassemblement national et de ses idées est quelque chose maintenant qui a plusieurs années. Mais surtout, le fait nouveau, c'est que la droite s'est extrémisée. Vous dites la droite républicaine, en réalité, il y a une porosité qui est extrêmement importante entre la droite LR et le Rassemblement national qui est visible. Des alliances, il y en a déjà eu dans le passé. 1998, il y a eu des alliances de certains ténors de la droite dite de gouvernement qui ont fait alliance avec le Front National pour se maintenir à la tête de certaines régions. 2024, aux élections législatives anticipées, la droite LR n'a pas appelé à faire barrage républicain. Et ça, c'est une rupture aussi dans l'histoire de cette droite. Enfin, j'ai écouté Laurent Wauquiez il y a quelques jours, et Laurent Wauquiez dit « tout sauf LFI ». Donc, quand le journaliste lui demande « est-ce que vous appelez à voter Rassemblement National ?», alors il ne répond pas, mais il dit « tout sauf LFI ». Donc, la porosité entre la droite et le Rassemblement National est extrêmement importante. Pour preuve, puisqu'on parlait de la Seine-Saint-Denis, il y a une conseillère régionale de Seine-Saint-Denis, LR, et un sénateur LR de Seine-Saint-Denis, qui était présent à l'anniversaire de Sarah Knafo, qui est une des dirigeantes de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc, il y a un espèce de bloc qui est en train de se constituer, et dans ce bloc, il y a un toboggan d'une partie du personnel politique de la droite LR qui est en train de glisser vers l'extrême droite.
Céline Malaisé, Emmanuel Macron a annoncé un service national volontaire qui concernera d'abord 3000 jeunes. Ils ne seront pas envoyés sur des théâtres extérieurs. Mais cette annonce intervient sur fond de menaces venant de la Russie et de réarmement de l'Europe. Le PCF s'inquiète d'un engrenage guerrier, mais ne faut-il pas se préparer à tous les scénarios et donc renforcer l'armée française ?
Alors, tout le monde connaît l'adage « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Après, on peut se demander si le meilleur moyen de se préparer est d'instaurer le service militaire volontaire. Moi, j'ai des doutes sur l'efficacité opérationnelle de la mesure et le Parti communiste a raison de s'interroger sur cette mesure et sur son efficacité. Ça semble être une tentative plus ou moins adaptée d'essayer de diffuser un esprit de défense dans la population. Mais il y a un véritable angle mort dans les dans cette mesure proposée par le président de la République, c'est la question de la résilience de la société française. On voit bien que la société française devrait déjà mener en fait une lutte informationnelle contre les fake news et la propagande qui distille et qui s'instille dans notre pays. Elle devrait aussi avoir du sang-froid quand il faut réagir aux provocations sur notre sol par des gens qui sont payés par le Kremlin, par exemple, qui ont tagué les étoiles de David dans les rues de Paris, qui ont mis des mains rouges sur le mémorial de la Shoah, et il n'y avait pas de sang-froid non plus dans les réactions. Et puis ensuite, quand on veut donner envie à la population française de défendre son pays, ça ne peut pas être simplement pour défendre par seul patriotisme ou seulement pour défendre des valeurs. Défendre la France, ça veut aussi dire défendre et préserver le pacte social de la France. Et pour ça, en fait, il faut d'une part le préserver et aussi l'améliorer, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Et donc cet angle mort, je crois que le Parti communiste essaye aussi de mettre la lumière sur les non-dits. Et c'est plutôt une bonne chose parce que je crois qu'il faut faire réfléchir et notamment il faudrait aussi un débat au Parlement sur cette question-là et que ce ne soit pas seulement des annonces présidentielles.
Céline Malaisé, cet été, une commission d'enquête sénatoriale dirigée par le sénateur PCF Fabien Gay a montré qu'il y avait 211 milliards d'euros d'aides par an aux entreprises. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a mandaté le haut commissaire au plan Clément Beaune pour réaliser une radiographie des aides aux entreprises. Il faut durcir les conditions d'aide à ces entreprises.
Alors, les 211 milliards, ce que dit la commission parlementaire, c'est que c'est un plancher. Il faut bien mesurer ce que ça représente. Ça représente 40% du budget de l'État qui, finalement, est alloué à un soutien public aux entreprises. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces aides sont inutiles ou inefficaces, mais par contre, ça a montré qu'il n'y avait pas de transparence, pas d'évaluation, pas de conditionnalité des aides. Et donc, en réalité, je crois que la mesure essentielle dans les préconisations de cette mission, parce qu'il y en a 26 des propositions, c'est qu'il faut une règle générale, notamment une règle générale sur quelles sont les entreprises qui seraient éligibles aux aides. Une entreprise qui délocalise ne peut pas être éligible aux aides publiques. Exemple Michelin avait reçu 4,9 millions d'euros pour des machines, pour acheter des machines qui n'ont pas été utilisées en France, ça doit être remboursé. Autre chose, c'est qu'il faut aussi des contreparties. Et notamment, les aides publiques ne peuvent pas servir à subventionner les entreprises qui versent des dividendes avec ces aides publiques aux actionnaires. Donc il faut un contrôle aussi de l'argent public. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui n'était pas, et peut-être que Clément Beaune pourra le faire, des aides régionales aux entreprises, puisque le développement économique est la compétence des régions. Nous, à la région Île-de-France, nous demandons finalement que les préconisations de cette mission soient déclinées à l'échelle régionale, afin finalement de voir de la manière dont les aides publiques et les aides régionales aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants sont utilisées. Donc on va faire cette proposition à la présidente de la région Île-de-France en espérant qu'elle y accorde au moins un œil, une oreille attentive et qu'elle se dise que, évidemment, le budget régional doit aussi finalement être contrôlé ou avoir des contreparties s'il y a des aides aux entreprises.
Céline Malaisé, à quelques jours d'intervalle, a été publié un sondage IFOP controversé sur le rapport des musulmans à l'islam et à l'islamisme, puis un rapport sénatorial demandant d'interdire le voile et le ramadan aux moins de 16 ans. Comment réagissez-vous à la fois à ce sondage et à ce rapport du Sénat ?
Je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Énormément de mesures qu'on pourrait dire rapidement, ce sont des mesures pour faire le buzz, mais surtout ce sont des mesures ou des idées liberticides et totalement contre-productives qui sont installées dans le débat public. Contre-productif parce que ce type de demande faite par des parlementaires peut avoir comme conséquence d'accélérer le repli communautaire, chose qu'il ne faut surtout pas. Et puis, je crois que ça veut dire beaucoup de l'état de notre société où il y a cette obsession contre les musulmans avec des propos anti-musulmans qui se sont banalisés, normalisés dans les médias. Et moi, ça m'inquiète parce que c'est une rupture avec notre histoire laïque. Parce que ça, c'est une manière de dévoyer la laïcité de ce type de proposition pour cibler une population, et ici en l'occurrence les musulmans. Et c'est aussi une rupture avec notre état de droit, parce que l'état de droit, normalement, doit garantir les libertés individuelles. Et là, la loi de 1905, elle garantit l'exercice des cultes. Et là, on a en fait un personnel politique, des médias, des élus qui s'engouffrent dans une espèce de panique morale et qui finalement installent une logique de bouc émissaire dans une période de crise et qui essaie de fracturer la société française avec deux France qui s'opposeraient. Et puis surtout, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de décrire une société qu'ils ne connaissent pas. Il fut un temps où le racisme anti-musulman était quelque chose de marginal. Maintenant, il s'est banalisé. Mais il fut aussi un temps à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où on avait une stigmatisation des judéo-protestants. Et là, la même mécanique, en fait, se met en place de fracturer le pays en deux blocs.
Mais comment lutter contre l'islamisme tout en préservant les musulmans?
Eh bien, faire en sorte de faire respecter la laïcité. L'État laïque n'a pas à juger une pratique religieuse dès lors qu'elle ne s'impose pas à autrui et ne trouble pas l'ordre public. Et par ailleurs, c'est qu'il y a un espèce de continuum inquiétant entre djihadistes, ensuite islamistes, et puis très très vite, ça bascule sur musulmans, et tout ça ne serait qu'une continuité. Donc il faut des mesures adéquates et ne pas stigmatiser l'ensemble des musulmans pour dire qu'on lutte contre l'islamisme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il y a énormément de chercheurs qui ont fait des préconisations sur comment lutter contre l'islamisme, mais qui disent surtout qu'il ne faut pas stigmatiser la totalité des musulmans, parce que dans le monde, en fait, les premières victimes des attentats terroristes menés par des djihadistes, ce sont par ailleurs des musulmans.
Dernière question, Céline Malaisé, vous êtes élue au Conseil régional d'Île-de-France, vous vous opposez à la présidente Valérie Pécresse. Pourquoi le pass Navigo va-t-il à nouveau augmenter ?
Alors pourquoi ? Parce que c'est un choix politique de la présidente d'Île-de-France Mobilité. C'est la 7e hausse depuis qu'elle dirige la région depuis 10 ans. Ça fait plus de 20,80 € par mois, c'est-à-dire 25% de hausse. Donc là, on va atteindre au 1er janvier 2026 un pass Navigo à 90,80 € et par an, quasiment 1 000 € par an. Il y a un accord qui a été passé entre le ministre des Transports il y a quelques années et la présidente de région, qui est un mauvais accord sur le financement des transports publics en Île-de-France, qui fait que chaque année, il y aura des augmentations à hauteur de l'inflation plus un point, jusqu'à plus un point au-dessus de l'inflation. Ce qui fait que les usagers, en fait, payent de plus en plus cher chaque année. Et chaque usager peut s'en rendre compte au quotidien, ils payent de plus en plus cher et ils subissent aussi des dégradations. Parce qu'une grande partie, en fait, de la nécessité d'avoir des financements plus importants, ce ne sont pas parce que des nouvelles lignes ouvrent, parce que ce ne sera pas le cas pour 2026, mais c'est parce que il y a un processus en cours qui est le processus de la privatisation et notamment la privatisation des bus ex-RATP, et ça coûte extrêmement cher de privatiser les moyens de transport pour privatiser les bus RATP. Ça coûte 4,9 milliards d'euros Et donc, évidemment, il faut financer ça. Et une partie des moyens de financement, eh bien, repose sur les usagers qui, eux, subissent hausse des tarifs et en même temps dégradation des transports en commun. Et donc c'est un choix politique que nous combattons et pour lequel nous avons lancé un grand collectif qui s'appelle Stop Galère, stopgalère.fr, donc Stop Galère dans les transports, pour informer et mobiliser aussi pour expliquer que on peut avoir des recettes de financement des transports qui sont différentes que de taper dans le porte-monnaie des usagers.
Merci Céline Malaisé. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale PCF, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne à la région Île-de-France.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.